au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, je reçois aujourd'hui dans cette émission la philosophe et académicienne des sciences morales et politiques, Chantal Delsol, pour le livre « Qu'est-ce que l'homme ? Cours familier d'anthropologie » paru aux éditions Cerf en 2008. Bonjour Madame Delsol.
Bonjour.
Ce livre est divisé en 6 chapitres, qui sont donc 6 thèmes, qui tentent de définir un peu mieux ce qu'est l'homme, ou de définir tout court ce qu'est l'homme, cet être si particulier. Il est donc expliqué au travers de la mortalité, de la différenciation, de l'immortalité de la société, vous parlez de l'éthique, de la transmission, de la relation et de la distance, et en dernier donc de l'enracinement et de l'émancipation. Ça fait beaucoup de thèmes. Lequel vous paraît le plus incontournable, au fond le plus près de l'homme ?
Tout dépend de ce que l'on entend par près.
Qu'est-ce qui définirait le
mieux
l'homme ?
Qu'est-ce qui définit le mieux ? Si l'on entend par là la chose essentielle, c'est peut-être la transmission. Bon, le phénomène le plus profond, c'est certainement la mortalité. Mais le phénomène essentiel, comme ça au quotidien, c'est la transmission, je pense.
Alors parlons de la transmission. Vous dites « Aucune société humaine ne saurait, quelles que soient ses raisons, passer outre la transmission ». Qu'est-ce que cette idée de la transmission, au fond ?
Ça signifie que l'homme est un être de culture, pas uniquement un être naturel. Et bien sûr, il est un être naturel, mais il est aussi un être de culture, et c'est ça précisément qui le distingue de l'animal, même s'il y a un début de culture chez les animaux, on le sait maintenant. Donc, si nous sommes des êtres de culture, ça veut dire qu'il nous faut transmettre la culture, puisque par définition, elle n'est pas innée, elle est acquise. Donc la transmission joue un rôle essentiel. Si nous cessons de transmettre, nous redevenons des animaux. Nous restons cloîtrés dans le domaine naturel.
Alors, revenons, vous disiez également que la mort est une idée très importante. Vous dites, donc c'est dans le premier chapitre, que l'homme se définit par sa condition même de mortel et de sa lutte contre la mort. Sa propre fin, c'est le thème récurrent de sa vie, de sa peur ou de son bonheur. Et pour l'illustrer, vous évoquez la première œuvre de littérature qui remonte à moins de 1650 ans avant Jésus-Christ, le long poème épique racontant l'histoire de Gilgamesh.
Oui, Gilgamesh.
Gilgamesh, qui est cette histoire... Quelle histoire de la finitude de l'homme. Alors pourriez-vous brièvement expliquer à nos internautes cette première œuvre littéraire et nous expliquer ce sens de la mort chez l'homme ?
Ce qui est assez, à partir de cette œuvre littéraire, oui, c'est la première que nous connaissions pour l'instant, parce que peut-être d'autres vont surgir entre les mains des archéologues. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès que l'homme commence à écrire, il parle de ça, il parle de la question de l'âme. Pourquoi dois-je mourir alors que je ne veux pas mourir ? C'est la question que pose Gilgamesh dans un texte qui est magnifique, qui est vraiment très moderne en même temps, avec des images très parlantes et qui parle encore à nos imaginations d'aujourd'hui de façon tout à fait claire. Alors, vous me dites pourquoi la mortalité ? Disons que ce qui est humain, c'est pas la mortalité, parce que tous les vivants meurent, mais c'est la conscience de la mortalité. La créature qui prend conscience de sa mortalité et qui s'aperçoit qu'elle doit mourir et qu'elle ne veut pas mourir en même temps, à partir de ce moment-là, elle devient humaine. Il s'agit au départ d'un grand singe. Et on peut penser qu'à partir du moment où le grand singe commence à se rendre compte de sa propre mortalité, eh bien, il devient humain. Je dis bien, on peut penser. Donc, quand est-ce qu'il prend conscience de sa mortalité ? Eh bien, quand il ritualise la mort, et à partir du moment où il y a des tombeaux, des sépultures, disons, ritualisées, donc où le mort est entouré d'objets, est installé dans une certaine position, etc. Donc c'est pas seulement un cadavre qui a été jeté au fond d'un trou pour pas que les bêtes le mangent tout de suite, c'est plus que ça. À partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a là une conscience de la mort et que là on est sorti de l'animalité.
Est-ce que vous pensez comme Socrate qu'elle n'est rien au fond la mort ? Est-ce qu'on doit avoir peur de la mort ?
Je crois pas que ça soit la question du devoir, parce que de toute façon, nous avons peur, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense qu'il est très difficile d'échapper à cette peur. Hein. Donc, j'ai fait une sorte de comparaison qui n'a rien d'extraordinaire, mais là, ce livre, c'est un cours pour les étudiants. Hein. Donc, je ne prétends pas du tout inventer quelque théorie que ce soit. Une comparaison entre la mort de Socrate et la mort du Christ, pour montrer comment la pensée humaine, c'était concernant la question de la mort, et d'autres questions aussi d'ailleurs, mais c'était développé essentiellement dans deux grandes directions, même si c'est trop simple évidemment, mais et bon, les deux personnages emblématiques de ces deux directions pourraient être Socrate et le Christ, même si bien sûr on peut en trouver d'autres. Et la mort de Socrate et la mort du Christ sont extrêmement différentes. Donc vous, c'est pourquoi vous posez la question, doit-on avoir peur de la mort? La réponse de Socrate, qui effectivement est mort sans avoir peur de la mort, semble-t-il, parce qu'on peut s'imaginer qu'il était un peu cabotin et qu'au fond il cachait sa peur, peut-être. Mais enfin, en tout cas, il est mort d'une façon, disons, absolument calme et sereine, exactement selon ce qu'il avait dit auparavant. La thèse de Socrate, ou le discours de Socrate avant de mourir, c'est, entre autres, lorsque je parle de la mort, je ne suis pas mort, et lorsque je serai mort, je ne pourrai plus y penser ni en parler, donc pourquoi en avoir peur ? C'est un argument parfait, mais il est justement trop parfait. C'est un argument parfaitement rationnel, mais lorsqu'on a peur de la mort, la raison, vous savez, passe par-dessus. On ne peut pas véritablement être accessible, enfin, on ne peut pas être accessible seulement à la raison lorsqu'on est devant la mort.
Alors, est-ce que vous avez une recette pour justement accepter l'idée de la mort ?
Ah non, j'ai absolument aucune recette. Malheureusement, peut-être, mais non, là, j'ai voulu montrer justement qu'il y avait, concernant la question du tragique de la vie et donc de la mort, il y avait deux réponses qui me paraissent être exprimées. D'une part, par les sagesses, qu'on peut trouver en Orient et qu'on peut trouver aussi en Occident, parce que Socrate est un exemple de sagesse. Tous les stoïciens aussi, enfin, pour en citer un certain nombre, mais surtout en Orient, où les sagesses sont extrêmement développées. Donc, d'une part, les sagesses qui passent, je dirais, par-dessous le problème, en disant le problème n'a pas de raison d'être, c'est une illusion, le moi est une illusion, le moi qui pense la mort est une illusion, donc on n'a pas à avoir peur. C'est d'une certaine manière un peu ce que dit Socrate, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, l'autre manière d'aborder le problème complètement différente, c'est la manière exprimée par les religions monothéistes. On passe au contraire par-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye d'assumer le problème tel qu'il est. Donc, on ne dit pas que la question est une illusion, ni que le moi qui pense est une illusion. On dit que le moi existe, que le problème est un vrai problème, qu'il y a un tragique, et on dépasse ce tragique par une croyance en l'éternité. Et c'est pourquoi le Christ sur la croix a un cri de, on peut penser que c'est un cri de terreur, même s'il est en train de réciter un psaume, mais il ne meurt pas du tout comme Socrate. On a l'impression véritablement qu'il a peur de la mort, parce que justement il essaye d'assumer le problème tout entier, tandis que Socrate essaye de dissoudre le problème. C'est très très différent comme manière de faire.
Alors justement, dans ce chapitre sur la mort, vous faites référence aux religions. Vous dites qu'elles visent en quelque sorte à rassurer les mortels. Vous pourriez nous expliquer cette idée ?
Mais vous savez, c'est la grande idée. Enfin, disons que j'ai dit ça en citant un certain nombre de visions des choses, parce que c'est pas forcément la mienne, mais ça peut être vrai aussi, naturellement. Vous savez, c'est la grande idée de Marx. La religion est un opium du peuple. C'était une manière de le dire qui était un peu bravache, un peu martial, mais il y a quelque chose de ça, effectivement. La religion, elle console, elle met du baume sur le cœur d'un homme qui ne veut pas mourir. Alors, on peut dire ça lorsqu'on pense que tout ça est faux, puisque la religion est une affaire de foi. Donc, le doute reste. Et à partir du moment où le doute l'emporte, on peut penser que la religion est un opium.
Vous pourriez développer cette thèse de Marx dont vous venez de parler ?
Marx consiste à dire que la religion est une superstructure. Pour lui, une superstructure, c'est une théorie superfétatoire en tant que superstructure, mais qui camoufle en partie les réalités, en les travestissant d'une certaine manière. Et ces superstructures doivent disparaître parce qu'elles ne répondent pas à la réalité vraie. Et la religion fait partie de ces superstructures. Elle est même presque la superstructure magistrale, celle qui doit pratiquement disparaître la première, ou presque. La religion est là uniquement pour consoler les humains d'un drame qui, en réalité, provient d'un certain nombre, pour Marx en tout cas, provient d'un certain nombre de faits dont l'homme n'est pas encore assez conscient, mais qui peuvent trouver une solution, un certain nombre de problèmes qui peuvent trouver une solution et qui donc feront disparaître la nécessité de la religion comme consolation. Il n'y aura plus besoin de se consoler du tragique de la vie lorsque la société de Marx sera réalisée.
Vous faites le parallèle entre la mort chez l'homme et la mort dans la société. Vous dites « le souci de la mort vaut aussi pour les sociétés, et une société ne peut durer que par le souci des individus de laisser derrière eux d'autres êtres ». Vous expliquez que les humains deviennent immortels de façon symbolique en se perpétuant par la génération. Pourquoi ?
Parce que c'est l'un des moyens, entre guillemets, c'est l'un des moyens d'acquérir une forme d'immortalité, se perpétuer en laissant derrière soi des œuvres.
La société a besoin d'être immortelle.
Alors, j'ai repris cette phrase de Cicéron qui avait été citée par saint Augustin, qui d'ailleurs pendant longtemps n'a été connue que par saint Augustin, lorsqu'il dit que un homme peut mourir, parce qu'un homme sait de toute façon qu'il doit mourir, donc à la limite il peut se suicider, s'il n'est pas heureux ou s'il veut échapper à ses problèmes, il peut se suicider, mais Augustin dit, après Cicéron, la société, elle, ne peut pas se suicider. Une société, elle est faite à la limite pour être immortelle. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'une société accepte beaucoup moins de mourir qu'un individu. Parce que la mort de la société, Augustin le dit, c'est comme si le monde entier disparaissait et s'évanouissait. Parce que c'est une culture tout entière qui disparaît. Tandis qu'un homme, il est inséré dans une culture et s'il disparaît, bien sûr, c'est dramatique pour lui et pour ses proches, mais il laisse derrière lui quelque chose qui lui ressemble. Si une société disparaît, plus rien, c'est comme si plus rien n'existait. C'est assez terrifiant.
Est-ce que vous pensez qu'une société peut disparaître ?
Oui, il y a des sociétés. Ça dépend, évidemment, si on parle d'une société, d'une culture, d'une civilisation. Bon, ça serait différent. Qu'est-ce qu'une société ? Bon. Mais il y a eu des cultures ou des civilisations qui ont disparu, naturellement. Alors, bien sûr, elles laissent toujours derrière elles quelque chose qui refleurit autrement et ailleurs. Mais, plus ou moins, il est probable que certaines cultures ont disparu corps et bien, sans que nous en gardions le moindre souvenir. Peut-être on retrouvera des traces plus tard de sociétés ou de cultures dont on n'a même pas l'idée aujourd'hui.
Que fait l'homme chaque jour pour justement éviter la disparition de sa société ?
Il soigne les institutions qui sont des espèces de tabernacles de la culture. Il soigne les œuvres, il soigne ses monuments. Tout ce qui peut durer plus longtemps que lui. Il soigne ses croyances en les défendant, ses croyances, ses convictions. Il transmet ses valeurs à ses enfants, même des valeurs simples, parce que c'est ça aussi qui fait que derrière lui va durer, va persister une certaine idée de la bonté humaine, de l'indulgence, de l'attention à l'autre. Voilà, donc il transmet ça à ses enfants, en disant voilà le trésor, porte-le.
Donc chaque être contribue plus que chaque institution au sein de la société ?
On ne peut pas comparer les êtres aux institutions, parce que les institutions sont des structures, donc finalement elles sont mortes si les êtres ne sont pas dedans. Ce sont les hommes qui créent les institutions, qui concourent à leur survie et à leur développement. Finalement, les institutions sont des moyens par lesquels les hommes assurent, enfin tentent d'assurer la durée de leur culture. Un homme seul ne peut pas aller très loin. Il peut laisser quelques bribes à ses enfants, bon, mais à part ça, et puis à ses amis. Enfin, il ne peut pas aller très loin, tandis que les institutions assurent une forme de pérennité, des croyances, des émotions, des sentiments, des certitudes, etc.
Avant de continuer sur d'autres chapitres, pourquoi l'envie de définir l'homme ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie d'apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui figure déjà dans les livres de philosophie ou d'anthropologie ? Parce qu'on a beaucoup traité l'homme déjà.
Si vous voulez, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, ça a donné lieu à 3 ou 4 livres, sur notamment les questions des droits de l'homme. Pour faire simple, parce que c'est plus développé que ça, mais enfin les droits de l'homme sont essentiels dans ces réflexions-là. Et la question que je me posais en permanence, c'était à quoi ça sert de crier droits de l'homme, si on ne sait pas qui est un homme ? Qui est un homme ? Qu'est-ce qu'un homme ? De quoi l'homme a besoin ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour être heureux ? Est-ce que d'ailleurs c'est le bonheur qui est essentiel pour lui ? Des questions comme ça. Et finalement, ce qui me frappe dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est qu'on parle tout le temps de droits de l'homme, mais on ne dit jamais qui c'est cet homme. Donc ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on dit « au nom des droits de l'homme, nous allons faire ça ». On rentre d'ailleurs dans des contradictions. Au nom des droits de l'homme, j'avais donné cet exemple une fois, on permet à une femme, on dit qu'une femme a droit à un enfant. Voilà. Si une femme a envie d'un enfant, elle peut avoir un enfant qui sera légitimé par la société, parce que bien sûr elle peut toujours, sens biologique, mais la société légitime une femme qui a un enfant toute seule, entre guillemets, parce qu'elle a droit à avoir un enfant. En même temps, vous pouvez aussi bien dire au nom des droits de l'homme qu'un enfant a droit à avoir un père. Bon. Donc vous pouvez légitimer la paternité au regard de cette certitude. Bon. Vous pouvez très bien tenir les deux certitudes à la fois, et dans ce cas-là, elles sont contradictoires. Si une femme a droit d'avoir un enfant, dans n'importe quelle condition ou situation, alors on est obligé de biffer le droit de l'enfant à avoir un père. Donc, ce que je voulais simplement dire en donnant cet exemple, et il pourrait y en avoir évidemment des milliers d'exemples de ce genre, c'est que les droits de l'homme n'ont aucun sens si on ne précise pas qui est un homme. Pour commencer, faut-il protéger l'enfant avant de protéger l'adulte ? Est-ce que la faiblesse compte dans la protection ? Qui est un homme ? Est-ce qu'un enfant a besoin d'un père ou pas ? Est-ce qu'il peut s'en passer ? On répond ici à la question « qui est un homme ?» qui est plutôt qu'est-ce qu'un homme ? Parce que qui est un homme, c'est la question de savoir, par exemple, à partir de quand un embryon est un homme ? Vous voyez ? Jusqu'à quand est-on un homme ? Est-ce qu'on cesse d'être un homme quand on est mourant, paralytique, etc. ? Des questions qui touchent évidemment tous les problèmes de l'euthanasie. Et... Donc, il m'avait semblé important de réfléchir à la question anthropologique pour pouvoir s'interroger sur les droits de l'homme. Il me semble que c'est ça un peu qui manque. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une grosse réflexion là-dessus, sur l'anthropologie. Ça redevient, je dirais, à la mode.
Vous évoquez les droits de l'homme. On parle ailleurs, par exemple en Belgique, de droits de l'humain. Vous préférez quoi comme vocable ?
Vous savez, ça m'est égal. Ce qui gêne les gens qui réclament qu'on remplace par le mot humain, c'est une forme de féminisme peut-être. Des gens qui craignent que homme, ça signifie homme et pas femme. Moi, je suis pas une féministe canadienne. Pour moi, homme, c'est humain. C'est un nom neutre en ce sens-là.
Je vous propose de faire une petite pause, Madame Del Sol, et on se retrouve dans un instant.
Canal Académie vous propose d'entendre Valérie Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
À présent du chapitre concernant la relation et la distance. Vous expliquez que le fondement même de l'homme s'exerce dans l'acte du don et celui de la dette, car il crée le lien. Vous citez le célèbre anthropologue Marcel Mauss, qui au sujet du brahmanisme, donc le brahmanisme constituant l'un des multiples courants de l'hindouisme, dit « Il est de la nature de la nourriture d'être partagée, ne pas en faire part à autrui c'est tuer son essence, c'est la détruire pour soi et pour les autres, l'acte compte davantage que l'objet ».
Oui.
Est-ce que vous pourriez développer cette idée de don et de dette qui crée le lien ?
Oui, ce que je trouve inquiétant dans les sociétés contemporaines, occidentales contemporaines, c'est que précisément, il n'y a plus que le résultat du don qui compte, à savoir ce que j'ai appelé là le dû. Finalement, c'est l'objet ou c'est l'argent ou c'est l'allocation, peu importe, qui finalement me revient, qui a été donné par, en général par une instance anonyme, à savoir l'État. Et finalement, ici, le lien qu'il y a entre le donateur et le donateur est coupé. Parce que précisément, on ne veut plus ce lien, parce que ce lien oblige. Il oblige celui qui reçoit, et il peut rendre, c'est vrai que ça arrive souvent, prétentieux, désagréable, celui qui donne. Et donc, pour échapper à ça, on finit par vivre dans des sociétés complètement anonymes, où c'est pas qu'il n'y ait plus de dons, mais ce sont des dons que j'estime dévoyés, parce qu'ils ne créent plus de lien social. Alors que le don a pour but, naturellement, de pourvoir quelqu'un qui en a besoin, je sais pas, de lui donner un bien quelconque, parce qu'il en a besoin, mais le don consiste surtout, et tous les ethnologues le disent, à créer un lien, à ce point que j'ai cité aussi les livres de Malinowski, à tel point que souvent, dans certaines sociétés, il y a un système de dons et de contre-dons qui n'ont pas de sens au regard de l'objet que l'on donne. L'objet lui-même n'a pas d'importance. D'ailleurs, c'est un objet sans valeur et qui ne sert à rien. Mais c'est uniquement pour créer le lien. Dans nos sociétés, nous avons dissous ce lien. Et surtout, il ne faut plus qu'il y ait de lien entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et je pense que c'est tout à fait tragique.
Vous pensez que c'est depuis l'introduction de la monnaie, de l'argent ?
Ah non. Non, l'introduction de la monnaie... effectivement, va réduire, oui, les liens de personne à personne, probablement. Mais non, c'est depuis l'État-providence. Parce que l'État-providence remplace tous les groupes qui autrefois organisaient le don de personne à personne. Et l'État-providence les remplace, en général d'ailleurs, après les avoir supprimés pendant un certain temps. Et on s'aperçoit que quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de groupe pour organiser la solidarité, quand il y a juste la solidarité familiale, ça ne suffit pas dans une société. C'est très important la solidarité familiale, mais ça ne suffit pas. Quand il n'y a plus de groupe, ça a été le cas tout le 19e siècle en France, entre la loi Le Chapelier et 1984, où les syndicats, les groupes ont été à nouveau permis, sauf à quelques petites périodes. Entre les deux, mais très brève. À partir de ce moment-là, quand on s'aperçoit que la société est entièrement atomisée, l'État vient à la rescousse et on crée l'État-providence. L'État-providence, c'est précisément le système qui veut qu'il y ait un dû, mais pas de lien.
Vous pensez qu'elle déshumanise ?
Je pense, oui. Je pense qu'on déshumanise pour éviter justement l'obligation de l'un à l'égard de l'autre. On coupe les liens parce qu'on n'arrive pas à les assainir, au fond. En fait, on jette le bébé avec l'eau du bain.
Vous dites qu'une des solutions, c'est l'effort.
Alors oui, c'est un autre point. Oui, c'est parce que je crois énormément au développement de la personne et de son autonomie. Je pense que vraiment, on est tous en train de se développer à tout moment de la vie. On peut toujours se développer à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement du développement des compétences, mais du développement moral, du développement des talents. Et effectivement, l'effort me paraît être absolument essentiel. J'en ai parlé à propos du don, parce que c'était une sorte de conséquence. Le dû de l'État-providence anéantit l'effort. Vous n'avez plus besoin de faire d'effort, puisque vous recevez presque avant même d'avoir demandé.
Alors, vous dites que dans nombre de pays comme la France, l'élargissement indéfini des créances gratis distribuées par l'État épargne nombre de gens du souci du nécessaire. Alors, ainsi, une famille à faible revenu bénéficie de l'école gratis, des livres scolaires gratis, de l'université gratis, de l'allocation logement, de la santé gratis, de la culture gratis. Mais au fond, cela ne profite qu'aux plus démunis, c'est ce que vous dites. N'est-ce pas du bon rôle de l'État que d'aider les plus démunis ? Et est-ce qu'on vire pas un peu vers la politique quand on parle de l'État et de tout ce qu'il offre de gratuit ? Est-ce qu'on peut resituer un peu le contexte ?
À quel point de vue ? Vous voulez dire on se met à parler politique ?
Oui, quand on évoque l'État, la scolarité gratis, etc., on se demande si finalement ce n'est pas aussi du rôle de l'État que d'aider les plus démunis.
Ah mais bien sûr, le rôle de l'État ne s'arrête pas à faire le gendarme, enfin en tout cas pour moi. Moi je suis libérale, mais pas à ce point. Je pense que l'État doit intervenir quand il le faut. Mais là, il me semble qu'on n'aide pas les gens à se développer. On ne les pousse pas à faire des efforts, en leur donnant absolument tout sur un plateau. En leur disant bien que c'est un droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le donner, mais précisément, il faudrait d'abord que ce ne soit pas systématique, que ce ne soit pas toujours pour toujours, que ce soit en cas de besoin uniquement. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses, parce que quand on en a vraiment besoin, et ça peut arriver à tout le monde, ce n'est pas uniquement une question de paresse, hein, c'est une question de pas de chance, c'est une question... Bon. Alors là, il faut que la société vous aide, mais il ne faut pas que ça soit pour toujours, parce que sinon, la plupart d'entre nous vont avoir tendance à s'asseoir dessus et puis à dire « demain, ça tombera aussi, je n'ai pas besoin de m'en faire ». Donc, ce que je reproche, c'est que d'abord, essentiellement, que ça ne soit pas temporaire.
Est-ce qu'un modèle européen ou outre-Atlantique devrait être une référence pour nous ? Est-ce que vous auriez un...
Je vous dirais que, personnellement, je pense que les sociétés fédérales comme la société suisse ou la société américaine, qui est très différente, sont plus proches du véritable développement humain que la nôtre. Alors naturellement, probablement nous ne laissons pas échapper un certain nombre de misères et bon... Quoi qu'encore, vous savez, je ne sais pas. Quand je vois le nombre de mendiants qu'il y a dans nos rues, et très jeunes, bon, il me semble que les sociétés anglo-saxonnes ou le fédéralisme suisse, oui, prennent plus en compte le développement de l'individu et le poussent à faire des efforts davantage. Et personnellement, je trouve ça plus sain. Enfin, c'est évidemment un choix personnel, c'est une opinion.
Dans un sous-chapitre relatif à l'indifférence, vous évoquez l'altérité. Vous dites que le lien ne se crée que dans l'altérité, que celle qui existe entre les sexes est la plus profonde et la plus essentielle, qu'elle engendre des tourments infinis. Une société qui, au-delà de la tolérance, légitime l'homosexualité autant que l'hétérosexualité, marque par là qu'elle renacle à reconnaître l'importance de l'altérité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce phénomène d'altérité qui est tout ce qui est autre, en fait, hein ? Tout ce qui est autre serait mauvais, en fait
Pourquoi ?
Créerait des problèmes ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers...
Ah non, pas du tout. Je vais vous dire que nous sommes, par définition, insuffisants. Chacun d'entre nous est insuffisant. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire « je ne dois rien à personne ». Je ne parle pas même du point de vue matériel, mais si on regarde ce que chacun d'entre nous doit, d'un point de vue affectif et doit aux autres, c'est incroyable, quoi. Tout ce qu'il faut pour qu'un enfant devienne une personne... équilibré, je dirais. Tout ce qu'il faut comme somme d'apport. Donc, nous ne sommes pas suffisants. C'est précisément pour ça que nous avons besoin des autres, parce que les autres ne nous ressemblent pas. Je parle véritablement de l'altérité. Et donc, nous avons besoin des autres parce que, précisément, nous manquons toujours de quelque chose. Et les autres viennent combler ce manque.
De quelle manière ils viennent combler ?
Et en nous apportant d'autres points de vue sur les choses, d'autres talents que nous ne connaissons pas, une autre forme d'intelligence, une autre forme de sensibilité. Enfin, bon, c'est bien ce qu'on peut éprouver lorsqu'on se trouve devant une amitié ou un amour. On voit bien que l'autre nous apporte ce que nous n'avons pas. Et bon, je pars du principe, tout simplement parce que je vis dans cette société déjà, du principe selon lequel l'altérité la plus profonde, la plus importante, c'est la différence sexuelle. Vous savez, quand on regarde les cosmogonies, c'est-à-dire les grands récits de la formation du monde, on s'aperçoit qu'il y a toujours la création de l'homme par des dieux, des demi-dieux, enfin, il y a toujours quelque chose comme ça, toutes les cosmogonies. Mais ce qui est étonnant, c'est que les dieux ou les demi-dieux, en général les dieux ou le dieu, ne créent pas toujours les mêmes différenciations. Dans notre cosmogonie européenne, qui c'est la Bible, au fond, parce que nous sommes des enfants de la cosmogonie biblique, eh bien, Dieu crée un homme et une femme. Il ne crée pas un laboureur et un poète, il crée un homme et une femme. C'est donc, ça signifie que nous considérons cela comme la différenciation majeure. Ça ne sera pas pareil dans certaines cosmogonies indiennes où les dieux vont créer un brahman et un intouchable, enfin, ce qu'on va appeler comme ça aujourd'hui, vous voyez. Donc, la différenciation sera plutôt sociale. Mais moi, il me semble, c'est peut-être parce que j'ai été éduquée par cette société, parce que je suis née dedans, et que la différenciation essentielle, elle est là. Bon, d'abord parce qu'elle est premièrement biologique, et bien sûr qu'elle n'est pas que cela. Donc, il me semble que là, c'est l'altérité dont nous avons, pour commencer, besoin. Nous avons besoin de connaître l'autre à cet égard, parce que ça paraît être le plus profond. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé de, je ne sais plus si j'ai dit mariage homosexuel, ou j'ai parlé de légitimation, je n'ai pas parlé de tolérance. Et je pense qu'on peut... Le mariage est une légitimation. Donc, à partir du moment où vous légitimez, ça signifie que tout est pareil.
Quel parallèle faites-vous entre l'altérité et la diversité ?
Oh ben, la diversité, c'est multiple. Quand on parle d'altérité, on parle de l'autre unique. Enfin, unique, au fur et à mesure. Mais un autre, on parle d'un autre. Bon, on pourrait gloser là-dessus, mais l'altérité est importante. Elle est. Je pense que vous partiez d'un morceau de phrase tout à l'heure, bon, où il était question de la difficulté à vivre l'altérité. Naturellement, c'est difficile parce que nous sommes en nous-mêmes et difficile de sortir pour aller vers l'autre, de comprendre ce que dit l'autre alors que c'est pas nous. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon nous serions enfermés en nous-mêmes et nous avons besoin de sortir et nous avons besoin de voir ce qu'il y a à l'extérieur de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Tout simplement.
Vous parliez justement de légitimer l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il faudrait en arriver à une tolérance sereine, mais je pense qu'on n'a pas à légitimer. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs légitimer l'homosexualité ? On peut légitimer le mariage homosexuel, on peut tolérer l'homosexualité, mais il me semble que on est bien obligé de dire qu'il s'agit d'un comportement qui apporte, enfin moi je pense, qui apporte moins de bonheur que le comportement hétérosexuel dans l'ensemble. Le tort que nous avons eu, vous comprenez, c'est d'être d'une intolérance crasse pendant des siècles, de traiter les gens qui avaient ces comportements de pauvres types, de femmelettes, etc. Et ça nous retombe dessus. C'est bien fait pour nous, à la limite. On n'aurait jamais dû se comporter comme ça. Ce sont des gens qui ont un autre comportement, qui ont un comportement différent des autres, mais ils sont tout aussi respectables.
Alors, en résumé, pour terminer cette émission, qu'est-ce qui, selon vous, définit le mieux l'homme au travers de la société ?
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, au travers de la société ? Un homme social, vous voulez dire l'homme ?
L'homme, le concept d'homme social. Comment le définissez-vous le mieux ? C'est-à-dire cet homme dans une société, à travers donc, la mortalité, à travers l'enracinement, à travers tous ces thèmes que vous abordez ?
Je pense que, oui, le dernier chapitre pourrait peut-être formuler une réponse à cette question.
L'enracinement,
oui,
et l'émancipation.
Voilà, l'homme est un être enraciné, c'est-à-dire qu'il a absolument besoin de revenir aux racines. Hein. Pas uniquement les traditions, mais les mœurs et coutumes de la société dans laquelle il vit, de s'enraciner dans une filiation, c'est très important, et de s'enraciner dans des coutumes, dans des manières d'être qui ont déjà été portées par d'autres avant lui, mais en même temps il a besoin d'émancipation, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avancer, il a besoin que son époque avance, il a besoin de monter sur les épaules de ses pairs, au sens général du terme, pour aller plus loin, pour voir plus loin, pour améliorer ses comportements, pour faire mieux, essayer de faire mieux et de vivre mieux. Donc il y a à la fois la nécessité des racines et la nécessité de dépasser ses racines. Et c'est ça qui est compliqué, justement.
Donc à la fois le besoin d'être enraciné et émancipé, est-ce que c'est compatible ? On peut se poser la question. Hein.
C'est difficile, effectivement. C'est difficilement compatible parce que vous avez toujours des groupes de gens qui sont enracinés dans l'enracinement, si j'ose dire, et qui ne veulent pas en bouger. Et puis d'autres groupes, au contraire, qui ne veulent plus que l'émancipation et qui veulent faire la tabula rasa, couper toutes les racines et c'est pas meilleur. Donc la difficulté, c'est l'équilibre.
Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces thèmes dans le livre de Chantal Delsol, Qu'est-ce que l'homme ? Cours familier d'anthropologie, paru aux éditions Cerf en 2008. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Chantal Delsol.
Merci beaucoup
d'être venue nous en parler. N'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions sur l'anthropologie et la philosophie sur canalacademy.com.